Je parle tout bas pour ne pas me réveiller.
Approche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves.
C'est impossible.
Vous êtes en retard pour le thé.
Seulement si tu crois que c'est impossible.
Dans tes rêves.
Dans tes rêves, ton héros est un contemplatif qui boit du vin blanc dès le matin à la buvette de la plage près du lac d'Annecy. Il se prend pour le vieil homme sans la mer d'Hemingway. Le pêcheur qui n'a jamais pêché de gros poissons embarque sur sa vieille barque prénommée Mrs. Dalloway à la recherche de la baleine du lac. Un monstre gentil qu'il appelle Jessie à l'aventure comme à l'aventure, même si elle est imaginaire. Dans tes rêves, ton héros est un jeune intérimaire libertaire qui collectionne les petits boulots en CDD pour mieux se barrer. Il a tout fait, technicien de surface poétique, enquêteur des poèmes de Rambo, joueur d'échecs contre les petits chefs. Ça ne rapporte rien, mais ça lui va plutôt bien. Il est libre, le poète, et c'est parfois mieux qu'un CDI. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui de l'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin. Tout est possible, tu deviens un super-héros de la vraie vie. Alors, si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves.
France Inter.
Laurence Garcia.
Et pour cette nouvelle rêve partie, une rencontre d'imaginaire dont je me suis inspirée, mon premier est auteur, scénariste, ex-rédacteur en chef de Charlie Hebdo, ethnologue du lever de coude et des fameuses brèves de comptoir dont il a fait un genre littéraire. C'est un fantaisiste, poète de la vraie vie. La baleine du lac d'Annecy, c'est son dernier roman conte chez Julliard dans la collection Papillon. Bonjour, bonsoir Jean-Marie Gouriot.
Bonsoir.
Ça va bien ?
Très bien.
Je me suis librement inspirée de votre héros, qui existe ou pas, on verra ça plus tard. Vous aussi, vous donnez souvent des petits noms comme ça, à des objets, à la baleine qui s'appelle Jessie, la barque...
Toujours.
C'est vrai ?
Toujours. Toujours des surnoms. Mais je crois que c'est quelque chose qui me vient des bars. Jamais.
On est bien
jamais
déjà.
Dans les bistrots. Mais c'est vrai que tous les habitués ne s'appellent jamais par leur prénom, leur nom de famille. C'est toujours... Pingouin, pièce jaune, la moule, la fiotte, Trouduc, Raymond. Enfin, que des petits sobriquets. Oui, absolument. Et d'une certaine manière, ça rajoute au personnage un peu de poésie, d'une certaine manière. Un prénom, et c'est un peu administratif.
Ah oui.
Alors qu'appeler quelqu'un... Il y en avait un, il s'appelait Gueule d'égout. Très mignon. C'est mieux que Raymond.
Et vous aviez des petits surnoms comme ça dans toutes les... Bar, vous avez pu écumer pour vos brèves.
Non, je me souviens pas qu'on m'ait appelé par
Jean-Marie.
Non, Jean-Marie, pas tellement. Ça va, toi ? C'est plutôt des toi. Alors, qu'est-ce que tu deviens, toi ?
Qu'est-ce qui devient lui ? Mon second est l'humoriste, acteur, chroniqueur, gaucho, écolo, végétarien. Envoyé un peu spécial, comme il dit, dans l'émission des Jupitériens belges, il fait du comique d'investigation sur Inter et croque la novlangue cynique des communicants dans son spectacle « Que demande le peuple au café de la gare ?» Cosmé, c'est son premier roman chez Flammarion. Bonjour, bonsoir Guillaume Meurice.
Bonjour, bonsoir Laurence Garcia.
Je suis ravie de vous recevoir en tant que jeune et tout nouveau romancier, dites donc.
Jeune, je sais pas, mais nouveau romancier, ouais, bah. Oui, ça c'est sûr et certain, oui.
Et alors c'est flippant un peu, non ?
Non, c'est assez excitant.
Ouais.
Non, je découvre un monde que je connaissais pas, oui, je viens plutôt du milieu du théâtre et de la radio. Et le monde de l'édition, c'est particulier, ouais, j'aime bien. Non, non, il y a plein de choses à découvrir, j'aime bien.
Premier roman, donc, avec votre personnage à vous, on va croiser vos héros tout à l'heure. Cosmé, intérimaire, libertaire, poète, sans envie de CDI. Il y a un peu du double cachet de Guillaume Meurice ou pas du tout là-dedans ?
Il y a peut-être une filiation, ouais, peut-être. Il y a un désir de liberté qui est le même chez mon personnage et chez moi, oui, ça c'est sûr et certain. Après, avec certaines limites, hein, parce que lui, il va quand même très très loin dans l'idée de la liberté. Il est capable de se mettre dans des situations que je décris dans le livre, à savoir être SDF, quasi volontaire, de rester enfermé chez lui pour écrire des poèmes pendant des semaines. Donc, ouais, Il pousse le bouchon un petit peu loin.
Et on parlera à la fois de cet homme libre et libertaire et de ce chasseur de baleines imaginaires ou pas. Je crois savoir, vous êtes déjà rencontré dans la vraie vie, déjà reçu.
Oui, oui, on apparaît, on disparaît.
Et on réapparaît.
Dans des bars, oui, oui.
Ah, bah, c'est
peut-être
ça, c'est les
bars. Il y a quelques brèves de ces livres qui sont.
Oui,
sont
mais
des
les bars, c'est ça. Hein. Tout d'un coup, on se retrouve. Ce qui est formidable dans les bistrots, c'est le hasard. C'est ce qui fait tout le charme.
Vous croyez au hasard, vous d'ailleurs?
Ah, dans les bars, ce n'est que ça.
Ouais.
C'est du hasard de rencontre, que des accidents.
C'est la théorie du chaos.
Oui, absolument, ouais. C'est génial. Et en plus, c'est d'une certaine manière un chaos organisé parce qu'on connaît l'adresse. Et avoir l'adresse du chaos, c'est formidable. Et on voit à quel point les gens ont besoin de parler d'eux. Et dans ces petites phrases qui semblent être rien du tout, il y a un fond extrêmement poétique, amusant, dramatique, en rien du tout. Et c'est pour ça que ces phrases courtes, souvent, sont des mondes en raccourci qui sont très maniables pour un auteur.
Ouais. Alors c'est marrant, je ne pensais pas que vous alliez parler directement, vous, des brèves de comptoir, parce que vous les avez cessées définitivement. Vous en avez parlé, hein, après les attentats de Charlie Hebdo. Vous êtes tourné vraiment vers le roman, et notamment cette collection Papillon, que vous avez créé. Il y a un unique auteur, c'est vous.
Oui, oui.
Ça c'est bien, je trouve.
C'est unique dans le monde de l'édition. Ouais. C'est mon éditeur, Monsieur Bernard Baron, qui a créé. On a créé une collection, la collection Papillon, où il n'y a que moi. Un seul auteur.
Je m'aime bien, finalement.
Ouais, ouais. Ça vous entendez bien, j'espère.
Et donc c'est une collection pour des textes, un peu libertaire, poétique, amusant, décalé, absolument fraternel. Et c'est pour ça d'ailleurs quand on parle beaucoup des bars, d'une certaine manière, c'est un monde, c'est une classe sociale. Moi, je pense que le poème fait partie d'une classe sociale, la poésie.
C'est-à-dire
la rue, les travailleurs, les gens des marchés qui travaillent dehors dans le froid, les gens sur les toits qui réparent les maisons.
Il y a pas de poésie chez les gens sédentaires, des bureaux, etc. Les gens de dedans.
Elle est moins cabossée. Il faut que ça accroche au fond de la casserole, je dirais, pour que la poésie soit vraiment jolie. Il faut en chier un peu pour que la poésie serve à quelque chose de la manière. Ce n'est pas une parure. Mm-hmm. C'est un peu une défense. Ouais. C'est quelque chose de. Il faut avoir faim pour être un grand poète, je crois.
Ouais. Il faut avoir faim.
Ouais.
Mm-mm. Guillaume Meurice, vous dites souvent, je pense que ça vous parle, la notion d'humour bienveillant, ce qui n'empêche pas d'être parfois bien.
Tout le monde ne dit pas ça à propos de mon humour.
Oui, c'est ça. Ouais,
mais j'aime bien. C'est un peu macroniste hein, d'ailleurs comme terme, bienveillant.
Macroniste.
Ouais, il faut être bienveillant. Mais ça met en même temps. Il faut pas froisser. Ouais, ouais. Préserver la chèvre et le chou.
Ouais, ouais. Mais la fraternité, certains sens de l'engagement. Vous le dites souvent aussi, je m'en fiche, mais quitte à faire un peu bisounours, je suis un peu bisounours. Et c'est pas des mots bisounours.
Ouais. Oui, faut pas avoir peur de ce qu'on est, quoi. Ouais. Mais c'est vachement critiqué le fait d'être bisounours aujourd'hui.
Oui, mais c'est incroyable d'ailleurs parce que c'est stupéfiant. Il y a plein de gens qui se revendiquent racistes, dégueulasses. Oui. Il dit moi je suis raciste et je t'emmerde.
Ouais. Ça j'en interroge tous les jours. Ça,
voilà.
Plein,
alors là il a le droit.
Oui, vous,
il revendique une saloperie. Et quand on dit qu'on est gentil, qu'on est bisounours, les gens ils rigolent.
Ouais.
Alors qu'avec les racistes, ils écoutent leur voix. Et il leur parle comme à des adultes. Ouais. C'est aux bisounours qu'il faut parler comme à des grands.
Il faut réhabiliter la gentillesse.
Absolument. Voilà.
Je sens qu'il y a un gros air de famille entre vous deux. Vous les repérez de loin, vous, Guillaume Meurice, vous qui allez dans les rues, dans les meetings, dans les assemblées, dans les manifs, ceux qui ont un imaginaire proche du vôtre, les cravates de gauche, les cravates de droite.
Mais je pensais ça au début.
Les valeurs qui renforcent ça en blue pas.
Ah. Ouais, je pensais, au début, je faisais pas mal aux faciès.
Ah, délit
de faciès. Dans les micro-trottoirs ou dans les meetings. Et en fait, ça marche pas tant que ça.
C'est-à-dire.
Donc maintenant, je fais confiance au hasard. Parce que des fois, on se dit, tiens, lui, il a une bonne tête de raciste, par exemple. Et en fait, pas du tout. Et il se trouve que le mec dit l'inverse au micro. Donc maintenant, je fais au hasard et il n'y a rien qui marche mieux que le hasard, en fait.
Ouais. Et donc, le ressort comique, il vient aussi de là, des contradictions. Et,
Ah oui, après, je m'amuse dès que je vois quelqu'un qui rentre dans une espèce de faille logique. Oui, après, ça, c'est ma passion, ouais. C'est vrai.
Gouriot, vous ne le connaissez pas, vous le croisez dans la rue, vous dites, il a une tête de quoi ?
Ouais, il a une bonne tête d'anard, hein, comme ça, j'ai l'impression. Bon, il est pas, on voit bien qu'il a pas une start-up, quoi.
Non.
C'est immédiat.
Mais sinon, pour la surprise avec les gens, il y avait souvent des surprises à la lecture des brèves.
Ouais.
Parce que les gens, il y avait une phrase violente, et ils allaient dire, ah, ça, c'est le boucher du coin qui l'a dit. Pas du tout. C'était une petite vieille toute mignonne.
Ouais, c'est ça qui est fou.
Et il y avait
une
phrase extrêmement poétique, disant, ça doit être la petite vieille. Non, non, c'est le boucher. Et ça, j'adorais ça. C'est que tous les masques, il y a rien. Il y a plus que la phrase, et on se rend compte que les gens, quand même, ils sont. Je trouve quand même que quand on les traite bien et qu'on fait attention à eux, ils sont profondément gentils quand même.
Oui, mais toute la journée, on leur dit vous êtes des cons, ah, c'est il infernal, faut consommer ça, etc. Donc ça rentre dans le crâne.
C'est comme avec les enfants, on n'arrête pas de les taper, ils deviennent violents.
Bah ouais,
Et les gens, à force de dire qu'ils sont bêtes, qu'ils aiment que des trucs idiots, bah, ils deviennent bêtes et idiots, il n'y a rien à faire. Par provocation aussi, par méchanceté aussi. Quand on me dit que je suis méchant, je vais être méchant. Ouais. Si on me dit constamment que je suis gentil, que mes livres ils sont jolis, et j'ai envie d'être gentil puis d'écrire des belles fables. Ça, c'est imparable.
Vous êtes gentil, Jean-Marie.
Ça fait effet immédiatoire. La gentillesse qui tombe des étoiles sur nous cette nuit, c'est magnifique.
Il y a que des gentils en plus chez nous ce soir. Voilà, fantaisie, utopie, pour le programme jusqu'à minuit. Vous postez bien sûr vos songes sur notre page Facebook à nous dans tes rêves. La rêve partie du dimanche soir, mitonnée par le gang des rêveuses. Marie-Hélène Fauquet, la réalisation. Nadia Chouguier, préparation. Muriel Pérez pour la programmation. Et ce soir, à la technique, notre rêveur. Pierre-Yves de Rolin, belle, belle soirée, les gentils alors.
Love. Just like all the sorrow, like there's no tomorrow, cause tonight might be your last. So stay up till sunrise, wipe the tears from your eyes, leave it in the past. The past, the past, the past, the past. Leave it in the past. The past, the past, the past, the past. Leave it in the past.
Breakdancing boogie, my love. This is 1971. I crave that brain and that flesh. Cups of tea and gums that bleed red. Say you wrap the plastic in white. Say you single all of my life. Blackest skin disfigure my crimes. Credit cards and losing my mind. Piece by piece they stitch me. Ain't no love, I'm still banging out Whitney. I can't cry for those who ain't with me. I can't praise the Lord, please forgive me. Pink like pussy, extra pushy. Hands up off me, she's so lovely. Fame and fortune, all those habits. Pink and white, them panties matching.
I want to stay forever. I want to stay
forever.
I want to stay forever. I want to stay forever. The past, the past, the past, the past. Leave it in the past. The past, the past, the past, the past. Leave it in the past.
C'est Roger Snow et Dana William et Aminé sur France Inter.
Dans tes rêves.
Je n'ai aucune envie de grandir.
Allons, chérie.
N'y pense pas ce soir. On verra ça demain.
Laurence Garcia sur France Inter.
Et non, remets pas ça demain, c'est tout de suite ici et maintenant, comme disaient les autres. Comme à chaque fois, messieurs, nous revisitons l'imaginaire de l'enfance qui explique qui l'on devient. Avec vous, l'écrivain Jean-Marie Gouriot et notre expert du taquinage artistique, c'est vous, j'aime beaucoup Guillaume Meurice. Je vais commencer par vous, Jean-Marie Gouriot. Vous êtes né dans le Lot-et-Garonne, mais grandi en banlieue parisienne, hein, c'est ça. Un papa militaire, est-ce que ceci explique un petit peu cela aussi?
J'ai pas connu beaucoup mon père parce que il est mort, j'avais 5 ans. Et ma mère était concierge et donc on habitait tous dans une loge de concierge, tous entassés gentiment.
Dans le quartier des éditeurs à Paris, non, c'est ça?
Rue du Cherche-Midi, ma mère était concierge du Cherche-Midi. Ah. Voilà. Et donc on était entassés là, avec mon père sous tente à oxygène, avec les enfants dans la même pièce.
Parce que lui revenait de la guerre d'Indochine, plutôt qu'à bosser quand même.
Oui, il était polio et tuberculeux.
Wow.
Voilà, donc il est venu, il est mort à Paris, mais j'étais vraiment petit. Et donc, il nous a donné gentiment, avant de partir, la tuberculose.
Non.
Oui, bien sûr. Donc, je suis parti en préventorium très jeune. Après, je suis allé en banlieue. Après, comme j'étais pupille à la nation et qu'à l'école, ça allait pas bien, ma mère m'a foutu à l'armée.
Oui, franchement, vu de loin comme ça, c'est à la dure quand même, non?
Ah ben, c'est violent.
Oui, c'est violent.
Ah oui, c'est dur, oui. C'est dur et après, ce qui est incroyable, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidablement intelligents. Et je me suis rendu compte que l'intelligence, elle est très douce. Justement, Cavanna, Rezer, Volinsky, Cabu, tous ces gens-là que j'ai rencontrés à Charlie Hebdo et Rakiri qui m'ont sauvé la vie, qui m'ont sauvé l'esprit. donc la vie,
ouais,
était d'une gentillesse incroyable. Ils avaient l'air méchants, mais pas du tout.
Et donc, méchant.
Les gens très intelligents sont très gentils, et les gens très cons sont très méchants. Ça paraît un peu simple, mais j'ai l'impression que c'est ça.
C'est-à-dire que sans toutes ces rencontres et ces mains tendues, parce que c'est aussi comme ça que parfois on s'arrache d'un milieu ou de, voilà, d'une condition, ça vient de ces donneurs de confiance aussi. Sans cela...
C'est-à-dire que le deal, il était, tu peux avoir une jolie vie... Si tu travailles, c'est drôle parce que c'était des grands travailleurs. Toute la bande d'Arakiri et tout ça, ils bossaient. Hein. C'était des rayons non plus finir. Ils faisaient toutes les semaines des pages, les mois et tout ça. Il y avait beaucoup de travail. Donc, tu fais ce que tu veux, mais il faut que ton travail soit bien fait.
Donc, la valeur travail, c'est traditionnaliste, hein, finalement.
Elle est pas du tout de droite,
bah,
dis donc.
Exactement. C'est quoi
mais
ça?
Mais je serais un très bon boulanger. Moi, j'aime faire du bon pain. Et les gens, quand ils arrivent le matin à la boulangerie à 6h et puis que vous êtes à 3h du matin à faire du bon pain, que ça sent bon.
Ouais.
Et que les autres en face, ils travaillent sur un chantier, ils viennent chercher le pain pour faire les casse-croûtes et puis qu'ils se régalent. Et en plus, le pain, il est chaud, ça leur réchauffe les doigts.
Ouais.
Et là, c'est un plaisir d'être boulanger. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de droite ni de gauche. Il y a une valeur, en effet, qui est un peu le respect des autres par la qualité de son travail. Que ce soit pour les livres, le pain.
De ses mains.
Construire un train. Fabriquer quelque chose qui n'existait pas. Donc, qui crée une surprise et que les autres en profitent pour que leur vie soit plus facile, plus jolie.
Ouais. Alors, vous vous souvenez peut-être de ce moment-là. C'était en 82, dans le plateau en fumée où ça picolait, à mon avis, bien sec. Droit de réponse chez Pollack où Choron jouait au réac un peu vieux con, quand même.
Il y aurait quand même un coup terrible.
Est-ce
à
que
faire
je peux répondre à ces défections?
Bon, allez, Choron, un mot.
Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire?
Ben, faut exact...
Ça ne veut plus rien dire, les lycéens. C'est des merdeux.
Alors, ils sont
des trous du cul. Des cons.
Merci, Choron.
Bon,
allez.
Alors, écoute, excuse-moi. J'espère que la caméra est sur moi.
Bon.
Pollack, je veux dire que ce que je viens d'entendre dire là, c'est rien du tout. C'est les mots de ma mère. C'est les mots de ma grand-mère. C'est des mots imprimés qu'on leur a mis dans la tête. Ils n'ont rien à dire, ces jeunes cons-là. Excuse-moi
bon,
du
allez,
mot.
Pas d'un,
bon,
pas...
ils n'ont rien à foutre. Ce
ça
sont,
suffit, Choron.
Ce sont des petits ânes qu'on nourrit, c'est très bien, et qui ferment leur gueule.
Ça suffit, Choron. Vous étiez ou pas?
Oui, bien sûr, j'y étais. D'ailleurs, Pollack, dès qu'on arrivait le matin, il a dit, surtout, vous buvez pas.
Oh, ben, tu parles,
Charles. Donc, évidemment, ça s'est passé comme ça. Mais Choron, à ce moment-là, il disait que les jeunes étaient des petits vieux. C'est toujours sa phrase. Vous êtes des petits vieux, décrassez-vous la tête. Ayez du culot, cassez tout.
C'est
ça qu'il dit là. Donc,
ouais,
il disait aux étudiants, vous êtes formatés, remuez-vous. Vous parlez, il dit, on dirait ma mère, on dirait ma grand-mère. C'est ce qu'il dit, Choron.
Mais il dit que c'est des ânes, c'est pas très sympa pour les ânes, qui est un animal que j'aime beaucoup.
Oui,
et en plus,
ça,
il adorait ça. Il était très.
Défenseur de la cause animale.
Ouais, toujours.
Il adorait la campagne, Choron.
Vous, c'est d'une autre génération, c'est votre famille un peu de pensée, d'humour, les Choron, les Charlie, les Harakiri.
Moi, je suis venu un peu après quand même.
Oui,
mais,
non, mais je sais, c'est d'une autre génération.
Je viens d'une famille
mais...
de 68 ans.
Oui, quand même. Hein.
Mon père et ma mère étaient vraiment de fiefé hippies. Donc, oui, je viens de là, bah, culturellement, oui, familialement, ouais, je viens de là, évidemment.
Il vous prenait pour votre fils spirituel, Choron, Jean-Marie Gouriot.
Oui, oui, il m'a bien aimé déjà parce qu'il a vu que j'avais envie de travailler, j'en voulais. Et après, il a su que mon père avait fait l'Indo.
Et lui aussi.
L'Indochine. Et lui aussi, il était sergent parachutiste en Indochine.
Ah, ouais, ça...
Et il était sûr qu'il avait fait l'armée avec mon père. Le sergent Gouriot, parce qu'il est sergent mon père, il était sûr qu'il était pote avec mon père. Alors après...
C'est une hallucination, non?
Pardon?
C'était vrai?
Je crois pas.
Ah oui, c'est ça.
Ah non, je crois pas.
C'est du piston, alors Jean-Marie, vous êtes fils
d'eux. Non, je crois pas.
C'est
alors,
un fils d'eux.
Il m'a pris sous...
anarchistes qui font
alors
chose.
Il m'a protégé. Et ben, c'est-à-dire que oui, c'est des baroudeurs, quoi. Ouais. Des mecs, ils vont partout, ils ont peur de rien.
Mais le fait de... Parce qu'en fait, les premières brèves de comptoir sont parues dans les colonnes de Charlie. Est-ce que
d'Arakiri,
oui, bien sûr. Est-ce que c'est aussi une façon de renouer avec, quelque part, le milieu social d'où vous venez? Parce que vous dites souvent, moi, les bistrots, c'est la parole des gens de dehors, des ouvriers, des prolétaires, des prolos, et de renouer avec cette famille que vous aviez quittée plus jeune, bien quelques années avant. Sans faire de la psy de...
j'ai commencé les brèves en 85 et il m'a semblé que c'était vrai vers 2000. C'est-à-dire que j'avais fait ça pendant plusieurs années pour commencer à me dire que ça ressemble à ça. Et qu'effectivement, j'adore être avec les gens dans les comptoirs, avec les maçons, avec les chauffeurs de taxi, avec les flics la nuit à boire des coups et tout ça, avec les artisans. Et je me suis rendu compte que je me mettais toujours dans les bars à côté des gens les plus cassés, les plus abîmés, les plus blessés. Et j'ai bien l'impression que mon père, comme il était bien alcoolique aussi, on a oublié de le dire, je crois qu'il devait m'amener au bistrot quand j'étais petit.
Ah, donc vous pensez...
Et que je devais m'accrocher à sa jambe ou à sa béquille de polio, alors que lui se saoulait la gueule encore avant de mourir, et que moi, j'ai à 5 ans ou 4 ans, j'étais avec lui dans les bars, et qu'en fait, je me sentais assez bien parce que j'étais accroché à la jambe de mon père. Et j'ai la sensation quand même que je vais dans les bars et que je m'accroche au plus tordu pourri, que je m'accroche peut-être à la jambe de mon père pour retrouver une espèce de sécurité. Ah, comme ça, c'est possible. Il m'a semblé que c'était vrai. Ça sent quelque chose. Je me sens tellement bien à côté du dernier pourri de la terre, en sécurité. Ouais. Il est cassé. Ouais. Il est malade. Il est moche. Et je me sens super bien à côté.
Vous sentez mieux.
Je risque rien.
Ah d'accord.
Faut être à côté de Finkielkraut alors.
Là, je risque beaucoup. C'est lui qui risque. Alors. Ouais.
Autre décor d'enfance, autre génération, ça ne s'invente pas. Guillaume Meurice, vous naissez en 1981, un mois après ça.
Eh bien, nous sommes donc dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous vivons ensemble un moment décisif. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. Dans tous les états-majors, un peu partout, dans tous les foyers, on attend ce résultat. Effectivement, vous l'aurez à l'heure précise.
10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1.
François Mitterrand est élu président de la République.
Nous répétons donc, estimation C2ION et Welbull, M. François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%. Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%.
Ouais, champagne.
Gabache, il tire la tronche. Je ne sais pas si vous souvenez face à tatatat au portrait.
Il y avait les chars russes qui allaient arriver après. Il allait être exécuté à place de grève. Donc ouais, il flippait là.
Face au premier portrait électronique de la télé, annonçant.
Avec ce crâne qui n'en finit pas.
Alors ce que j'ai bien compris, et vous nous l'avez dit, Guillaume Meurice, c'était pas complètement la gauche de vos parents. Hein, c'était plus la gauche radicale, 68arde. C'est pas la gauche
rose. À l'époque, à l'arrivée de Mitterrand, s'ils m'ont bien expliqué, ils y croyaient quand même.
Ah quand même.
C'était l'Union de la gauche, donc il y avait cet espoir-là de lendemain qui chante. Et puis après, les lendemains qui chantent, c'était Jacques Attali, en fait, qui chantait. Donc c'était les lendemains qui déchantent, voilà, tout simplement. 83, tournant de la rigueur, etc. Alors moi, c'est marrant, je suis né un dimanche, donc le jour des élections législatives, un 14 juin, et donc voilà, c'était vraiment la majorité à gauche, enfin c'était la révolution, quoi.
C'est pas anodin, on va pas faire non plus avec du recul.
Je viens de là, j'avais quelques heures et... Et peut-être ça a influé, peut-être, je sais pas.
On parlait tout à l'heure de la loge de concierge de la maman de Jean-Marie Gouriot.
Ouais, ça me parle à fond, ouais.
Vous, c'est la maison de presse de vos parents, parce qu'ils tenaient une maison de presse, en fait.
Alors, ça me parle, ouais. Et en plus, maison de presse, alors là, c'est pas le même contexte, c'est vraiment à la campagne, de la campagne profonde, en Haute-Saône. Est-ce que vous savez où c'est la Haute-Saône? Normalement, personne ne sait.
À gauche de la droite du centre.
Voilà, exactement. Vesoul. Préfecture, Vesoul.
Ça va, Vesoul, pour vous, Gorieux?
Non, parce que le début de La Dentelière, le roman, là, la première phrase, c'est l'action se passe dans un appartement qui a la forme d'une betterave écrasée. C'est pas celui-là? La forme d'une betterave, non?
Département, là? Oui, ça peut. Après, tous les départements ont un peu l'allure d'une betterave écrasée. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas vu une betterave écrasée. Non, mais attendez, parce que ça, c'est intéressant. Je voudrais revenir sur le point de la betterave écrasée.
J'aime beaucoup les
images. Je sais pas si qu'elle soit écrasée dans le livre de La Dentelière, mais en tous les cas, c'est la forme d'une betterave.
En tout cas, Vesoul, alors, c'est connu que par la chanson de Jacques Brel, et moi, j'ai mis longtemps, et je crois que même en Haute-Saône, ils ont pas encore tout à fait compris qu'ils se foutaient de la gueule de Vesoul dans la chanson.
Ah, Brel.
Donc, il y a un collège, Jacques Brel. Moi, quand j'étais gosse, je me disais, ça doit être le héros du coin. Et pas du tout. C'est juste un gars qui se fout de la gueule du monde.
La maison de la presse, c'est quelque part, c'est un théâtre réel, un théâtre imaginaire pour un petit gamin qui observe tous ces gens qui, je sais pas, voilà, on est au milieu du papier, des magazines, il y a des notables qui passent, il y a des prolos.
Il y a tout, en fait, il y a tout le village. Donc, évidemment, il y a toutes les classes sociales du village. Ça, c'est une bourgade, quoi. Il y a 1600 habitants. Mais tous les villages alentours venaient chercher, il y avait la foire, il y avait le marché, etc. Et alors, mes parents adorent le débat, enfin, mon père surtout, ils adorent discuter des heures sur ils cherchaient la petite bête. Donc, c'était un peu le lieu du village où les gens venaient débattre. Donc effectivement, il y avait des flics, il y avait les artisans, il y avait les paysans, il y avait tout ce monde-là. Et l'avantage, je trouve, là, pour le coup, par rapport à un bistrot, c'est qu'il n'y a pas d'alcool. Donc ça débattait, mais ça débattait toujours courtoisement, ou en tout cas, ça s'envoyait des fions, mais il n'y avait pas de baston, quoi. Le problème dans les bars, c'est qu'à un moment donné, il y a moins de perdition.
Moi, j'aime que la perdition s'ajoute.
C'est un autre style.
C'est plus noir, c'est plus violent. Ouais. Mais cela dit, moi, c'est toujours ce hasard, c'est un dedans-dehors.
Oui.
C'est tous les gens sortent de chez eux pour venir dans cet endroit qui n'est pas dedans, qui n'est pas dehors, où on peut débattre avec presque plus de liberté qu'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. On n'est pas oppressé par son intérieur, qui a un masque social.
C'est sûr,
on est plus à
c'est
poil.
C'est une sorte de terrain neutre.
Oui, absolument. Ouais. Alors ça débat, c'est formidable. On voit la vivacité et on voit la gourmandise.
Ouais.
Les gens, ils ont envie de parler, de raconter et de se livrer. Et surtout, je crois qu'ils ont envie d'être ensemble.
Oui, y a de ça.
Et ça, c'est vraiment, il y a une chaleur, c'est infrarouge. On voit bien que des fois, les débats s'éternisent. Pourquoi ? C'est pas pour la qualité de l'argument, c'est pour ne pas se quitter.
Non, mais toujours ça. Parce que personne n'essaye vraiment de convaincre l'autre, en fait. Au final, chacun part avec les mêmes idées. Ouais. Mais ce qui s'est passé entre, c'est ça qui est important.
Et cette joie d'être ensemble, ça y est, c'est une révolution sociale. Hein. Le plaisir de se retrouver, c'est pour ça que c'est terrifiant quand on voit les villages maintenant où il n'y a plus de bistrot, il n'y a plus l'école, il n'y a plus rien
et
du tout.
Et puis, les librairies.
Alors, où se retrouver, où se voir, où débattre, où est ce fameux terrain neutre où on peut parler de tout, de sa tristesse, des élections.
Maintenant, il est sur les réseaux sociaux. Quoi.
Ouais, c'est ça, mais donc il n'y a pas on n'est pas ensemble. Et en plus, c'est pas la même parole parce que là, on se permet des saloperies qu'on ne pourrait pas dire en face à face.
Il est bavard, hein, Gouriot. Hein.
Ouais, j'aime bien. Moi.
Ouais, c'est bien. Ouais. Et ce terrain du tous ensemble, vous, là, le gamin Guillaume Meurice, qui n'était pas super branché école non plus, hein, comme votre.
Bah, j'avais des bonnes notes, j'étais bon jusqu'au collège. J'avais pas la télé quand j'étais gamin.
Oui,
donc,
ouais,
j'ai appris à lire assez vite et tout. Ouais, c'est oui. Et si j'avais des facilités, donc j'avais des bonnes notes jusqu'au collège. Dès qu'il a fallu travailler pour avoir des bonnes notes, non, j'étais nul. Ouais.
Études de gestion, je vous imaginais pas futur comptable. Remarquez, c'est une
personne, même mes profs ne m'imaginaient pas futur comptable. Non. Mais j'ai suivi un pote qui faisait ça. J'ai passé 2 ans extra à Besançon à faire la fête tous les soirs. Donc ça, je regrette pas du tout mes années étudiantes. Mais oui, non, la gestion, je peux faire un tableur Excel peut-être.
Encore. C'est ça. Ouais, c'est tout. Alors, heureusement pour vous, à l'époque, il n'y avait pas le service militaire. Sinon, votre mère vous aurait peut-être flanqué là-bas pour trouver votre droit chemin.
Mais mon père est un des premiers objecteurs de conscience en France. Ouais. C'est un des premiers. C'était un pote à Mouna. Que Jean-Marie doit connaître, ouais. Donc c'était, oui, toute la clique.
En France, on n'a pas de pétrole, mais on a une raffinerie. Il était tout le temps à Beaubourg en vélo.
Exactement. C'est l'heure du Mouna. Mon père
avec sa cloche et son journal. Ouais. Voilà, devant Beaubourg.
Une sorte de figure de parisienne.
Et donc, il a son chapeau plein de médailles et tout ça. Il venait souvent à Charlie Hebdo et Choron le foutait dehors.
Ouais. Donc voilà, mon père traînait avec ce mec-là. Donc oui, évidemment, tout ça, ça forge.
Ça forge un homme et un futur homme. Pour vous, ce sera le théâtre, le one-man show. Dites quand même à Gouriot quel était le nom de votre premier spectacle.
Ouais, c'est la boulette. Ouais, j'ai cru bon appeler mon premier spectacle annulé. Et ce qui est une erreur commerciale, hein. Ça, ne le faites pas chez vous.
Pour si l'étudiant de gestion, je voudrais pas dire.
C'est très con.
Finalement, personne n'est venu, quoi.
Et personne n'est venu. Et j'avais même des potes qui me disaient, tu joues pas. J'ai vu sur internet Guillaume Meurice annulé. Mais ça correspondait artistiquement au spectacle. Je racontais l'histoire d'un spectacle qui s'annule. Mais si on le sait pas avant, ça marche
pas.
Mais là, ça fait un très beau thème de roman, ça. Un personnage qui commence comme ça, il fait un spectacle, il a une super bonne idée, il a peine à l'annuler, il y a personne, et il arrive pas, il a une autre idée qui s'est pas, il arrête pas d'avoir des idées qui s'annulent.
Ouais,
espèce de monde à la Kafka, infernal, il travaille dans un bureau, mais je sais pas quoi. Et donc, tout ce qu'il fait, il le détruit en même temps, il avance dans un monde comme la femme des sables, il s'enfonce dans le sable comme ça, il n'arrive pas à s'en sortir.
Allez, si tu écoutes, ça s'appelait pas J'annule tout, non ? Non, ce n'est pas ça ? Si tu écoutes.
Après ?
Ouais, après.
Ah, l'émission de. L'ancienne émission radio.
Mais bien sûr.
Si tu écoutes, j'annule tout, mais il y a longtemps.
Bah oui, mais c'est pour ça, annule tout. Allez, on annule rien.
J'ai, comme on dit, pressé le pas, une presse. recommencerai. Si tu me pardonnes, je 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 recommencerai.
C'est Barba Gallo sur France Inter et ce soir nous explorons la fiction intérieure et le cinéma imaginaire de nos deux invités, l'écrivain Jean-Marie Gouriot et l'acteur écrivain désormais Guillaume Meurice.
La chirurgie esthétique, avec un trou du cul, ils te font un œil.
Et les grands brûlés, on leur prend la peau des fesses et on la met sur la figure. Moi je fais plus la bise, je serre la main.
Oh, ça c'est un vrai café, ouvert sur l'Europe. Bravo et vive le bistrot français!
Ce qu'il faudrait, c'est que ceux qui ont donnent à ceux qui n'ont pas.
Dans tes rêves.
T'es bourré?
Laurence Garcia sur France Inter.
Alors on ne s'en lasse pas, hein, de vos brèves de comptoir, Jean-Marie Gouriot, là, adapté au cinéma à l'époque par Jean-Michel Arribe. Pour revenir à vos fictions, à vous, Cosmé, pour Guillaume Meurice, La baleine du lac d'Annecy, pour Jean-Marie Gouriot, vos narrateurs, vos héros, vos personnages, qu'on peut croiser d'ailleurs dans les bistrots, ils sont plus du côté de ceux qui n'ont pas que de ceux qui ont. Pour résumer, l'un est un pas vraiment marin-pêcheur d'ailleurs.
Non, il est charpentier de marine, un petit charpentier, il a un tout petit atelier au bord du lac.
Voilà, et puis il colle du vin blanc assez tôt.
Il fait attention parce que comme il vient, il est né en Écosse, il a eu une formation un peu de buveur quand même de whisky. Enfin, c'est un baroudeur, il a beaucoup voyagé, donc là il faut qu'il fasse attention. Donc il boit un peu du vin blanc comme ça, voilà, au soleil. Ça scintille et ça lui plaît, mais c'est un ancien buveur costaud, maintenant il est un peu calmé.
Alors l'un est convaincu, et il va le raconter à tout le monde, même si personne ne le croit, d'avoir vu la baleine du lac, qui t'a fabulé un petit peu aussi, parce que on ne sait pas si cette baleine du lac d'Annecy, elle existe pour de vrai ou pas.
Moi je vous jure, là, depuis que j'ai écrit ce bouquin, je ne peux pas voir le lac sans voir une ombre. Ouais. Alors maintenant je sais ce que c'est, parce que c'est dans le livre, c'est Murray qui m'a dit que c'était une baleine, autrement je ne savais pas avant. Et maintenant, en effet, je sais que c'est une baleine, je peux me dire que c'est une baleine, et il y a même un bouquin là-dessus. Et si je suis avec un enfant, j'ai dit, regarde là-bas, l'ombre, c'est une baleine. Et cet enfant-là, il dit, putain, un jour, j'étais avec un mec. Il me racontait qu'il y avait une baleine dans le lac et tout ça. C'est-à-dire que la légende devient vraie parce qu'elle est... Elle existe.
Maintenant, tu étais avec l'alcoolique Gouriot, là, il t'a raconté n'importe quoi. Il était sous.
Pas les conneries. Et une fois que la chose est dite, elle est là. Elle est là.
Ça, c'est le problème des religions.
Exactement.
Ça commence comme ça. Un jour, on n'est pas à l'abri de prier.
Ah, c'est la même chose. Le Loch Ness, parce que le Murray, donc, il est né à Inverness, à côté du Loch Ness. Quand il était gamin, il allait jeter des cailloux dans l'eau du Loch Ness en espérant voir le monstre. Et cette légende, elle est tellement réelle que finalement, le monstre est réel. Les religions, c'est pareil. Le monstre est tellement réel que la religion finit par être
réel. Au commencement était le verbe, alors voilà, dès qu'on dit quelque chose, ça existe.
Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas? À l'inverse, votre personnage aussi, on ne sait pas si la légende elle est réelle. Votre personnage aussi, à vous, c'est un obsédé du mot qui, lui, passe ses heures et ses heures à traquer l'essence cachée de la poésie de Rimbaud, en se disant, derrière telle voyelle, il y a tel décryptage, c'est un peu un détective de l'imaginaire, mais en même temps, est-ce que c'est réel pour lui?
C'est vraiment un détective, il a mené un peu une enquête sur ce poème. Enfin, il part du deuxième vers qui est, je dirais, quelques jours.
Vers, pas vers, à picoler.
Oui.
Hein, on est bien d'accord.
Pas là en tout cas. Ah. Mais il part de je dirais quelques jours vos naissances latentes, qui est donc le deuxième vers du poème de Rimbaud. Et il se dit, si Rimbaud y met ça, forcément il y a quelque chose à découvrir. Il y a autre chose que juste des mots posés les uns à côté des autres. Et en écrivant un jour un sonnet, il se met une contrainte et il se dit, tiens, je vais essayer d'écrire un sonnet de telle manière. Et il se dit, mais merde, est-ce que c'est pas la même contrainte que Rimbaud a utilisée pour voyelle? Il va vérifier et la suite dans le livre.
C'est ça. Mais de toute façon, ce personnage, il prend la vie avec plein de contraintes. Enfin, il tente de les dépasser. Pour lui, c'est un joueur d'échecs aussi.
C'est un peu, il prend la vie un peu comme à chaque fois une partie d'échecs qui recommence, quoi. C'est-à-dire, il prend une phase de sa vie. Il a été, ça s'apparente peut-être un peu au personnage de Jean-Marie. C'est une sorte de naufragé volontaire, quoi. C'est-à-dire qu'ils se mettent un peu en marge de ce qu'on pourrait appeler la vraie vie du quotidien, quoi,
pour
s'inventer, quoi, autrement, quoi, pour inventer quelque chose. Donc oui, c'est une espèce de vie poétique, quoi, clairement. Et donc il était capable, oui, de s'enfermer 3 semaines pour écrire des sonnets, ce qui est quand même dans notre monde parfaitement inutile, en tout cas c'est considéré ça. Comme inutile, et à la fois tout à fait fascinant, quoi.
Ouais, ouais.
Et j'ai oublié la question du coup.
Et pour bouffer, parce qu'il y a la notion de système aussi, parce que comme il est obsédé par ça, il enchaîne plein de petits boulots en CDD ou autre.
Voilà, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, il fait ses petits boulots pour se libérer du temps après pour pouvoir écrire. C'est-à-dire qu'il aurait pu, je le raconte un peu dans le livre, travailler dans une boîte de com et être bien payé parce qu'il a le sens de la formule, voilà, comme il travaille les mots, il a le sens de tout ça. Mais il choisit de pas le faire, quoi. Il choisit de travailler jusqu'à son chômage et après de consacrer tout le reste de son temps à écrire. Ce qui est assez génial. Alors là, c'est le côté un peu que j'ai pas fait ressortir dans le bouquin, mais pour moi, ce qui est assez chouette, c'est que il trouve ce secret parce qu'il a du temps et parce qu'il est au RMI à un moment donné. Donc s'il est pas au RMI, c'est un peu grâce à Michel Rocard finalement ce truc.
Ça non,
il est pas dans l'histoire, mais bon, il est quand même en creux, quoi. S'il a pas, sa seule richesse, c'est le temps.
Ouais.
Donc et c'est une putain de richesse, c'est le
clair,
temps en fait.
Ah oui, c'est énorme. Ouais. Tout l'argent qu'on gagne, qu'on touche, c'est du temps.
Ouais.
C'est
bah
pas
vous,
des voitures.
Il a du temps, votre personnage aussi.
C'est que du temps. Oui, parce qu'il gère, sa fortune. Pour lui, c'est des heures, des jours, des années. Parce qu'il sait très bien que s'il a du temps pour observer les choses, il va voir beaucoup plus de choses. Donc la vie, ce n'est que ça. Il n'y a rien n'existe qui n'existe pas.
Ouais.
En manière.
Quel philo, hein.
On a rien, rien. On ne crée rien en fait. On fait que de la tambouille.
On fait que de la tambouille. Votre personnage, cet imaginaire là autour de ce personnage Cosmé qui vit comme ça en traverse de la vie. Alors là, il existe celui-là pour de vrai ou...
Celui-là, au regret de vous annoncer qu'il existe complètement.
Mais pourquoi au regret?
Ben alors, parce que ça fait moins peut-être appel à l'imaginaire, mais c'est vrai qu'il est...
Mais rencontré dans un bar à Jeun et tout ça aussi ou...
Alors moi, je l'ai rencontré parce que c'était le régisseur de mon spectacle. Après, une fois que j'ai changé le titre et que le spectacle ne s'appelait plus Annulé, j'ai continué à le jouer. Et dans un petit café de théâtre du 20e, qui s'appelle le Café Théâtre Populaire, qui est un des derniers vrais café-théâtre, quoi, où il y a vraiment une partie café, bar, où voilà, Jean-Marie aimerait beaucoup, et une partie avec une petite salle un peu miteuse, 50 places, et une petite régie avec de lumière. Il y avait un mec qui s'occupait de ça, avec qui je buvais des coups après, et puis on commence à parler un peu littérature, et il me dit qu'il écrit des poèmes, et puis il commence à me parler de voyelles de Rimbaud, que je connaissais pas du tout, moi, à l'époque. Et il me dit, bah, tu sais qu'il y a un truc caché dedans que moi j'ai découvert. Donc je dis, ouais, d'accord, t'es sympa, resserre-moi un demi, quoi. Et puis, voilà, comme j'ai joué quand même un an et demi, je crois, dans ce café-théâtre, on a eu le temps de se lier d'amitié.
Mais qu'est-ce qui vous a fasciné dans son histoire, c'est ce côté déconnecté, poétique.
Il y a un truc qui est quand même incroyable, c'est qu'il l'a trouvé il y a 20 ans et il en a parlé à personne. Alors que normalement, quand on trouve quelque chose comme ça, le premier truc, c'est on crie dans la rue « Attendez, j'ai la solution du poème voyelle », qui est quand même le Graal de la poésie française, quoi. C'est mythique, ce poème pour les Rimbaldiens, c'est un truc
de fou.
Il n'a
pas déposé de brevet, quoi.
Et en fait, alors, une fois que j'ai su qu'il avait trouvé cette clé, il appelle ça une clé, on a cherché à comment protéger cette découverte. Et ça n'existe pas en France, on ne peut pas protéger une découverte littéraire. Il y a deux raisons pour lesquelles j'ai fait le livre, c'est... parce qu'il a cette clé et parce qu'il a une histoire extraordinaire.
Ces errants poétiques, parce que c'est un petit peu ça, vos personnages.
C'est complètement ça, oui.
Vous qui vivez depuis une dizaine d'années maintenant près du lac d'Annecy, pour de vrai, c'est un exil poétique, c'est une déconnexion volontaire. Jean-Marie Gouriot, on respire mieux le merveilleux là-bas.
C'est-à-dire que c'est ma fiancée. J'ai connu à Charlie en 76, ça fait longtemps. Hein. Et elle m'avait dit que quand elle était petite, elle venait avec sa grand-mère dans un village à côté, à Menton. Et elle disait à sa grand-mère, toute petite, on ne pourra jamais habiter là, il n'y a que des riches. Et un jour, j'étais à Taloir et je buvais une bière et j'ai vu qu'il y avait une maison à vendre et je l'ai appelée. J'ai dit, tiens, on va acheter là. Et donc, c'était
et
pour...
Et comment vous l'avez appelée, cette maison, vous qui donnez des petits noms à tout
le monde? Ah non, non.
Non, pas nom, là, pour le coup?
Non. C'est chez nous. C'est bien pour des gens qui ont l'habitude de la rue. Chez nous, c'est bien, ça clignote. Et donc, j'ai exaucé le vœu d'une petite fille de 5 ans.
Bah, c'est joli.
Voilà.
Voilà. Une autre clé.
En réalité, je le répète, ceci est une émission de radio.
France Inter.
Qui pisait une émission de radio dite comique.
Dans tes rêves.
Étonnant, non?
Étonnant, non?
Étonnant, non?
Étonnant, non?
Étonnant, non?
Étonnant, non?
Eh oui, tout est possible dans cette émission. Il y a même forcément le fantôme de des proches. Messieurs, il est bientôt minuit, Guillaume Meurice.
Déjà
yes, oui, ça vous écoutez, ça parle Jean-Marie Gouriot, tout ça. Et comme à chaque fois, il est l'heure de notre dernière séquence imaginaire. Et je vais vous demander de fermer les yeux. Choups. Voilà, vous me répondez les yeux fermés, le micro est devant votre bouche. Je commence par vous, Jean-Marie Gouriot. Dans vos rêves les plus fous, si vous pouviez recroiser là, aujourd'hui, maintenant, ce fils de concierge qui était plutôt fâché avec l'autorité du père, des profs, de l'armée, de la famille. Avec du recul, vous lui dites quoi, ce môme? Quel conseil?
Il s'est endormi, Jean-Marie, je crois.
Allô?
Je dirais... Fais attention.
Fais attention. C'est pas très libertaire, ça, fais attention.
Ben, ça veut dire fais attention à ne pas tomber dans les pièges prévus par la vie. Non, j'invente. Je sais pas du tout ce que je lui dirais.
C'est dur.
Je lui dirais, va faire tes devoirs.
Et bosse plus. Comme votre mère, en fait. Les yeux fermés, vous pouvez, Guillaume Meurice, croiser ce jeune gamin qui regardait le théâtre des grands dans la maison de presse des parents, sans savoir forcément ce qu'il allait faire plus tard quand il serait déjà grand. Vous lui dites quoi?
Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je lui dirais certainement quelque chose comme ose, fais des choses, rate.
Vous osez quand même.
Oui, mais justement, continuer à, ouais, continuer à. Moi, je trouve que c'est important d'échouer. C'est important de pas réussir à faire quelque chose, parce que c'est le challenge, il est là, quoi. C'est un peu décevant toujours de réussir, parce que il se passe rien après. Alors que quand on échoue, on peut continuer, s'améliorer. Donc, je dirais ça.
La culture de l'échec aussi.
Exactement.
Et pour de vrai, les yeux ouverts, tu dirais quoi? Parce que là, les yeux fermés, là, t'es parti.
C'est un petit peu fait pour vous refermer les yeux, Jean-Marie Gouriot. Voilà, dans un gueuleton, là, imaginaire, dans vos rêves les plus fous, vous pouvez partager des verres et des verres avec un célèbre fantôme, défunt, artiste, intellectuel, personnage. Vous réveillez qui?
Ah, Duras, ouais, tout de suite.
Duras, à boire des verres avec Duras?
Ah oui, boire des verres de vin rouge avec Duras, et qu'elle me méprise et dise que j'écris mal. Elle était méchante, elle était magnifique.
Vous êtes maso.
Ah oui, avec Duras, oui, j'accepte son mépris et tout, mais surtout j'observe comme un personnage ahurissant, de liberté, de d'art à en crever. Il y a des pages dans Écrire où elle raconte comment elle est à quatre pattes dans sa maison de Neuf-le-Château pendant des heures à regarder une mouche qui meurt. Il y a une copine à elle qui vient dans l'après-midi, elle lui raconte et sa copine elle dit « Je crois qu'il faut que tu fasses attention à toi ». Et donc aller jusqu'au bout du bout du bout du bout avec les mots, c'est stupéfiant. Alors j'aimerais bien qu'elle me dise un peu pourquoi elle fait ça et boire un petit verre avec elle, et puis j'aimerais bien lui faire une bise quand même, j'aimerais beaucoup ça.
Ah d'accord, bon, avec la mouche au-dessus. Duras pour Jean-Marie Gouriot, et vous, une rencontre imaginaire, un gueuleton imaginaire, un micro-trotte imaginaire?
C'est plus facile parce que j'ai eu le temps de réfléchir.
Ben je sais.
Il faut que ce soit quelqu'un de célèbre, connu?
Comme vous voulez, tout est possible.
Moi je dirais bien mon oncle, que j'ai pas assez connu, et qui était un super sculpteur sur bois, qui avait fait l'école Boulle et qui est mort... alcoolique, ravagé par l'alcool. Et j'avoue, j'aurais bien aimé passer plus de temps avec lui, alors je dirais lui. Voilà, mon
tonton.
Oncle. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais.
Pour continuer les sculptures.
Exactement, oui, bah oui.
Vous pouvez réouvrir les yeux, messieurs. Ça va? Bien rêvé?
C'est bien cette expérience.
Bah, oui, c'est une petite expérience nocturne.
Avec la petite musique, ça.
C'est un petit peu fait pour. Ah,
c'est bien foutu cette émission.
Bah, quand même.
C'est bien France Inter, en fait.
Oui, bien sûr, même le dimanche soir à 23h.
Faut que j'arrête d'écouter RMC, moi.
En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Ravi de vous avoir écouté dans vos imaginaires avec deux histoires complètement différentes, mais des personnages qui se ressemblent aussi. Il y a Cosmé, le premier roman de Guillaume Meurice chez Flammarion, et La baleine du lac d'Annecy dans la collection Papillon chez Julliard, avec vous Jean-Marie Gouriot. À noter Que demande le peuple, tous les mardis au Café de la Gare, même si c'est un petit peu complet, on sait jamais s'il reste des places.
Ouais.
Et les 7 et 8, 9 juin au théâtre Le Trianon.
Yes.
Faut que vous allez le voir, hein, Que demande le peuple.
Je vous invite, Jean-Marie.
Que demande le peuple, c'est que des mots que j'aime bien.
Ouais.
Demander, peuple, quand même, ça fait envie.
Ça fait pas mal. Ouais. Il manque plus que le petit verre, ça c'est après.
Il y aura.
Monsieur, je me doute, je vous fais confiance. Merci beaucoup, messieurs. À bientôt.
Merci.
Dimanche prochain, nouvelle rêve partie avec deux aventuriers, Rock Boivin. C'est un des derniers trappeurs québécois, et la coureuse polaire Stéphanie Jiquel. Voilà, encore d'autres personnages hors piste de la vraie vie. Et bien sûr, oser rêver, l'imaginaire est notre plus grande liberté. Et personne ne peut nous l'enlever.